Vous écoutez l'émission Portrait d'un colonialiste. Dans cet épisode en deux parties, on va essayer de changer, à travers l'histoire des communautés juives, nos idées reçues sur la religion juive. Pour découvrir comment cette religion résiste à l'État, comment elle survit de manière autonome à travers la tradition de la transmission, mais surtout on va s'intéresser au sionisme, pour essayer de comprendre comment le sionisme nous fait croire qu'il est le seul représentant des juifs, et ainsi nous faire croire qu'antisionisme égale antisémitisme. On décortique tout ça avec le collectif Tzedek, collectif juif antiraciste décolonial. Deuxième partie, le sionisme est nationaliste, colonialiste, mais serait-il aussi antisémite ? On rappelle qu'on est dans un contexte colonial européen et du coup les sionistes savent que pour avoir un territoire, leur meilleur allié, ce seront les chrétiens antisémites. Donc Herzl se rapproche de la Grande-Bretagne qui a des vues sur la Palestine. Dans ses citations, il dit « La création d'une nouvelle souveraineté n'a rien de ridicule ou d'impossible. Les gouvernements dans les pays desquels sévit l'antisémitisme seront très intéressés à nous procurer la souveraineté. » C'était juste pour dire que avec le mouvement sionisme, Herzl crée une institution politique dont le but est quand même de collaborer avec des grandes puissances coloniales et antisémites.
Mais entre guillemets, Herzl, il n'est pas bête. Il sait comment parvenir à ses fins et il voit qui est-ce qui gagne en ce moment. C'est le colonialisme, c'est les États-nations basées sur une idée de race ou une idée en tout cas d'homogénéité de la société. Et entre guillemets, à son époque, ça marche. Les États-nations sont en plein essor. Les populations, elles sont en plein essor parce qu'elles colonisent. Mais entre guillemets, ce qui marche à ce moment-là, c'est vraiment l'idée d'une État-nation qui homogénéise parfaitement la population et qui permet un ciment de la société parfait pour pouvoir garder la souveraineté du gouvernement.
Et ça va nous intéresser aussi pour la suite, parce que ses origines, notamment théoriques chez Herzl, ses origines théoriques du mouvement sioniste montrent à quel point il est vraiment imprégné de colonialisme européen. Ces gens ne cherchent pas un endroit où les juifs seraient en sécurité, etc. Ils sont vraiment obsédés par cette idée d'une souveraineté juive, d'un état juif, d'une régénération en fait de la race juive. En fait, c'est ça le drame. Hein. C'est pour moi. Est-ce que les sionistes sont antisémites? C'est une vraie question.
Oui.
C'est une vraie question. Moi, pour le moment, j'en suis plutôt à penser à un rapport d'affinité élective, mais en tout cas, ils ont incorporé. Et je ne sais pas jusqu'à quel degré, c'est pour ça que je ne sais pas si je les qualifierais d'antisémites, je ne sais pas jusqu'à quel degré, mais ils ont incorporé des structures absolument élémentaires, fondamentales de l'antisémitisme européen. Et ils ont refaçonné leur conception et leur rapport au judaïsme à cette image, à l'image des antisémites. Nous devons faire comme eux. Nous devons avoir un État juif, une souveraineté juive.
Et peut-être juste là, je vais faire un petit saut et on reviendra après, mais pour continuer sur le fait que le sionisme à quelque part est un antisémitisme, c'est la proposition finale de Shlomo Sand qui est de dire que le sionisme, en fait, avec le rejet complet de son projet politique qui assimile à une identité, en gros, de dire que soit on est sioniste, soit on n'est plus juif, c'est comme ça que va finir Shlomo Sand en disant, bah, comme moi je ne suis pas sioniste.
Shlomo Sand ?
Shlomo Sand, c'est un historien, un chercheur. Ouais. Ben c'est lui qui a écrit notamment... Comment j'ai cessé d'être juif, mais surtout il est connu comme la création du peuple juif, c'est ça ?
Comment le peuple juif fut inventé ?
Voilà, comment le peuple juif fut inventé. Mais en gros, sa dernière proposition, là, c'est de dire ben, « j'ai arrêté d'être juif parce que je suis pas sioniste ». Et en fait, c'est juste pour dire que le sionisme, en son sein, par la racialisation d'une identité à un projet politique, va finir par... en fait, détruire le judaïsme, par détruire la proposition de transmission d'une promesse, et va faire qu'il y a plein de juifs qui vont sortir. C'est en ça qu'elle détruit le judaïsme, et d'ailleurs, c'est en ça qu'elle est antisémite. Un dernier point, c'est qu'en fait, elle va utiliser des propositions juives, parce que c'est faux de dire que le sionisme n'est pas juif complètement. Cette proposition messianique, elle existe. Cette idée, plus ou moins, d'un royaume juif, elle existe dans les livres, mais elle n'est pas unique. Et la réduction, en fait, de toute une identité qui s'est construite sur 2000 ans de diaspora, même plus, sur des cultures différentes, des langages différents, la réduire à une proposition politique, oui, c'est antisémite, et surtout la réduire à une proposition qui est plus ou moins juive, mais qui en détruit toutes les autres propositions.
Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que la formule de Eyal Sivan au meeting juif international du sionisme comme ayant colonisé le judaïsme est très intéressante. Alors, maintenant, il faut dire que le sionisme a triomphé, en quelque sorte. Il s'est imposé dans toutes les têtes comme vraiment le, je sais pas, la marque déposée de l'appartenance juive, je sais pas comment dire. Donc, en fait, on se retrouve, et c'est pour ça que Tzedek, on essaye de fonder quelque chose, et notre fierté diasporique, et notre volonté de ne pas simplement agir politiquement au sens où dans l'espace public, on définit l'action politique et l'action privée, confessionnelle, etc., de mélanger tout ça à Tzedek. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on est pris en étau entre soit rester dans la communauté, être haredim, c'est la proposition anti-moderne, pour fonder notre appartenance juive, soit faire allégeance à l'étatisme sioniste, qui est garant d'une reconstruction, mais coloniale, et en fait étatiste, nationaliste, de l'identité juive. Et entre les deux, tous les juifs, qui ne se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre, sont comme dans une espèce de limbe, ne peuvent revendiquer qu'une origine juive. Et nous, nous voudrions en fait rassembler toutes ces personnes pour recréer une appartenance juive qui s'inscrit dans la continuité, dans la transmission, dans la tradition judaïque dont parlait Adam.
Mais un dernier point avant de revenir au début du sionisme, c'est que donc on a fait un petit état des lieux, d'ailleurs qui est très réducteur, des propositions du judaïsme au début du 19e siècle.
En Europe, ouais.
En Europe, on en a proposé trois et on a montré qu'il y en a d'autres. En fait, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et ensuite, il y en a d'autres dans tout le reste du monde. Mais ce qu'a réussi à faire le sionisme, c'est qu'aujourd'hui, il n'en reste que deux. Et ces deux-là sont sclérosés autour d'une idée essentielle du judaïsme et raciale du judaïsme, et elles ont détruit en fait toutes les autres. Et c'est en ça que le sionisme est antisémite, c'est en détruisant toutes les autres propositions du judaïsme. Soit on est avec nous, soit on est contre nous.
Nous allons écouter un extrait de l'article d'Alain Grèche, De la décolonisation à l'apartheid, publié dans Le Monde diplomatique.
L'orientaliste français Maxime Rodinson, lui-même de confession juive, écrivait en conclusion d'un article intitulé « Israël, fait colonial ?», publié dans la Revue des Temps Modernes, je cite « Je crois avoir démontré que la formation de l'État d'Israël sur la terre palestinienne est l'aboutissement d'un long processus qui s'insère parfaitement dans le grand mouvement d'expansion européo-américain des 19e et 20e siècles pour peupler et dominer économiquement et politiquement les autres peuples. » Fin de citation. À l'époque d'ailleurs, le fondateur du sionisme politique, Theodor Herzl, le revendiquait ouvertement, par exemple, dans une lettre à Cecil Rhodes, l'un des conquérants britanniques de l'Afrique australe. Je le cite. Mon programme est un programme colonial. Ce caractère colonial du mouvement sioniste a signifié dès l'origine une politique de séparation, d'apartheid avant la lettre, entre les colons et les autochtones. Comme en Amérique du Nord, en Australie, en Afrique australe ou en Algérie, le colonialisme de peuplement a toujours considéré les habitants originels comme des occupants illégitimes que l'on peut expulser, voire massacrer en toute bonne conscience, au nom de Dieu ou de la civilisation. Comme le déclare joliment le chercheur israélien Ilan Pappé, je cite, la plupart des sionistes ne croient pas en Dieu, mais ils croient qu'il leur a donné la Palestine. Ce que pensent nombre d'Occidentaux, même anti-religieux. Pourtant, quel tribunal pourrait admettre la Bible comme titre de propriété? Plus de proximité que de différence existe entre les divers colonialismes de peuplement. Comme l'a démontré la chercheuse Amy Kaplan, une partie de la sympathie américaine pour Israël tient à la similitude entre la conquête du Far West et la colonisation juive, entre le colon sioniste armé et le valeureux cow-boy. Plus significative encore est l'alliance tissée entre Israël et l'Afrique du Sud, dirigée entre 1948 et 1994 par le Parti National, une formation qui porte à son paroxysme la ségrégation raciale et met en œuvre la politique de développement séparé ou apartheid. Les dirigeants du Parti national, nourris d'antisémitisme et de sympathie pour l'Allemagne nazie, vont, des décennies durant, collaborer avec Israël, qui les aidera, entre autres, à acquérir la technologie militaire nucléaire. Le secret de ce mariage contre nature est dévoilé par l'universitaire israélien Benjamin Beit Alami. On peut détester les Juifs, écrit-il, et aimer les Israéliens, parce que, quelque part, les Israéliens ne sont pas Juifs. Les Israéliens sont des colons et des combattants, comme les Afrikaners. Ils sont durs et résistants, ils savent comment dominer. Fin de citation. Une explication qui vaut pour le ralliement à Israël de la majorité des mouvements d'extrême droite à travers le monde. Si elle reste antisémite, elle considère les Israéliens avant tout comme des colons blancs qu'il faut soutenir face à la menace islamique. C'est Herzl qui prêchait pour un Israël avant-poste de la civilisation contre les barbares, un rôle renouvelé à l'heure de la guerre contre le terrorisme.
Du coup, je voulais juste revenir pour finir sur les citations du mouvement sioniste. On en reviendra peut-être, je pense, peut-être après à ça, mais c'était pour dire que le mouvement sioniste, dedans, il y a quand même un mépris du juif religieux. Et qu'est-ce qu'il y a la volonté de créer, en fait, un juif nouveau. C'est toujours des citations. Et les différents dirigeants, pour parler des juifs religieux, ils parlent quand même, donc c'est une citation, de juifs parasites, de juifs improductifs et de juifs efféminés. Voilà, en termes d'antisémitisme.
Ah oui.
Oui, bah écoute, le sionisme, c'est avant toute chose, un nationalisme, deux, un nationalisme d'un type particulier, parce qu'un nationalisme colonial. Ensuite, on a des nuances dans le sionisme qui vont de la gauche, mais qui est une gauche nationaliste et coloniale, qui va en fait être responsable d'énormément de massacres et aussi d'injonctions à la normalisation et de mépris vis-à-vis de la diversité des situations juives. Donc là, on a le judaïsme des kibbutz, de la vie communautaire, etc., mais qui est nationaliste et qui est colonial, hein, qui se fait sur l'éviction des terres et sur l'immense fierté d'appartenir à une communauté nationale fermée. Donc c'est un drôle de socialisme quand même, hein. Et ensuite, à l'autre bout, on a, et c'est plutôt de ceux-là dont les dirigeants israéliens actuels sont les stricts successeurs, on a un sionisme fasciste. On peut penser à Volodymyr Jabotinsky, le groupe Stern, etc., qui étaient des gens qui étaient d'affirmés admirateurs de Benito Mussolini. Vraiment des fascistes. Et qui, en fait, se reconnaissaient à fond dans son idée d'un stato totalitario, d'une homogénéité, etc. Ils voulaient faire la même chose pour l'État juif en Palestine, quoi. Alors il y a des tendances contradictoires dans le sionisme, les sionistes de gauche n'arrêtent pas de le dire, ça reste un colonialisme, ça reste un nationalisme.
Et ça prend essor encore dans des gens qui se sentent frustrés, exactement comme Mussolini et les Harditi qui ont perdu la guerre, mais là on voit justement des juifs qui sont toujours ramenés à quelque chose qu'ils ne veulent pas et qu'eux-mêmes détestent, ils détestent les autres juifs, à tel point qu'ils ne veulent pas d'eux et qu'ils vont donc créer un État qui, en fait, est structuré comme l'étaient les États antisémites, qui est structuré sur la haine et l'éradication de l'hétérogénéité au sein d'une terre. Donc, c'est exactement ce qu'elle va ensuite produire en Israël, c'est que tous ceux qui ne ressemblent pas au moule fasciste, en tout cas, au moule du nouveau juif, Stakhanovitch, c'est vraiment, d'ailleurs, le nouveau juif, il est militaire, il est fort, il est masculin, enfin, vraiment, voilà, il est pas religieux, il y avait vraiment, il y a eu l'utilisation, en fait, de la symbolique antisémite, du juif religieux courbé, avec des longs ongles, qui se coupe pas les cheveux, qui est sale, et donc, il fallait reproduire, enfin, il fallait produire une nouvelle identité juive, qui était forte, qui pouvait combattre, qui était violente, en fait. Et si on n'appartenait pas à cette proposition, eh bien, on n'était pas considéré au même niveau. D'ailleurs, je vais juste continuer, je ne sais pas si tu voulais venir là-dedans, mais les premières arrivées des Juifs, donc maghrébins, ouais, séfarades, mizrahi, donc de l'Est, du Moyen-Orient, de l'Europe centrale, de l'Asie centrale, de l'Asie mineure, de l'Afrique, du Yémen, vont être ostracisés. Mais pire que ça, il va y avoir des campagnes comment on dit déjà, de stérilisation des femmes yéménites et des femmes éthiopiennes. Mais c'est fou de alors qu'il y a on a cette idée, enfin c'est oui cet idéal, ou en tout cas ce que les sionistes de gauche vont dire, que c'est pour l'émancipation des peuples. Mais alors, en fait, c'est l'émancipation d'un seul peuple, déjà, parce qu'on reviendra ensuite sur la question palestinienne, d'un seul peuple, donc du travail juif et non pas du travail des peuples. Et ensuite, ce peuple juif, il est idéalisé autour d'une identité fasciste. Et tous ceux qui ne ressemblent pas à ce juif blanc fort qui crée les kibbutz, je m'excuse, je fais plein de sauts, mais celui-là n'est pas reconnu comme appartenant à la société et donc doit être éradiqué selon différentes manières.
Normalisé, en fait, par le service militaire, etc. Et c'est pas un hasard, et on dit pas ça comme si, en fait, c'était un moment d'origine extrêmement problématique. On dit ça parce qu'en fait, toute l'histoire du sionisme la façon de vivre actuelle en Israël est imprégnée de ça. Le militarisme outrancier de l'État d'Israël est imprégné de cette image de régénération, de cette fierté, mais de cette fierté qui n'est pas une fierté dans l'égalité, dans la liberté, dans la fraternité. Là, j'ai plus un autre nationalisme. Qui est une fierté de la condescendance et du mépris de l'autre parmi les siens et de l'autre autre, c'est-à-dire l'autre palestinien, on va y venir. Une fierté vraiment qui est construite sur aussi la négation du passé, et là le révisionnisme le plus outrancier, parce que par exemple on parlait avec un camarade israélien d'une soixantaine d'années qui me disait j'espère que ça, c'est moins dégoûtant maintenant, mais dans mes manuels d'histoire israélien quand j'avais 15 ans il parlait des juifs et des juives comme s'étant laissés conduire à Auschwitz comme des moutons à l'abattoir, quoi. Il y a une espèce de mépris pour la faiblesse en fait du juif en diaspora qui amène en fait à nier et à considérer d'un œil condescendant et honteux toute sa propre histoire, quoi, pour justifier l'aboutissement, la régénération dans l'image qu'évoquait Adam. Le juif masculin, fort, tenant une arme, puissant, dominant, en fait, vraiment. Voilà.
Carrément. Du coup, on a fait un sacré saut dans le temps, parce qu'on est déjà passé à ce que va créer le sionisme et qui est l'État d'Israël. Mais juste, je voulais revenir que c'est à partir de la création du sionisme en Europe qu'il commence à y avoir des agressions de personnes parce qu'elles sont juives, et pas avant, en fait, au sein de la Palestine et autres.
Au sein de la Palestine, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut rappeler aussi que des Juifs en terre de Palestine, il y en a eu. Il y en a toujours eu. Et qui n'étaient pas ostracisés, qui n'étaient pas agressés. Les premières agressions, si je ne dis pas n'importe quoi, les premières attaques, c'est 1923, ou je me trompe. C'est plus ou moins, en fait, les...
Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a du sionisme, oui, il y a des tensions là-bas, et c'est, ça ne protège pas tant que ça.
En fait, c'est les modalités d'arrivée des colons sionistes qui arrivent avec une logique de séparation, et notamment l'Histadrut, qui est le principal syndicat socialiste, arrive avec la notion de travail juif, en fait, pour préciser, et qui va en fait exacerber les tensions. Après la Première Guerre mondiale, le monde économiquement est quand même dans une instabilité assez importante. Et en fait, on a ces colonies juives qui vont commencer à s'implanter, à ne pas, par exemple, employer de travailleurs arabes, à vivre dans une logique de séparation. Et donc, en fait, il va y avoir des... Et surtout, une fois que Balfour a donné son aval à la proposition sioniste, que du coup, maintenant, elle est accolée à l'impérialisme britannique, évidemment, ça va se marier avec toutes les tensions coloniales qu'on sait de division des populations minoritaires pour mieux gouverner, puisque les Britanniques n'ont quand même pas une présence militaire très importante. Ils doivent jouer des alliances, et donc en fait, ils vont exacerber les tensions. Et de fait, après 17, les premières tensions judéo-arabes vont se manifester. Il y a une énorme révolte en 29, et puis en 36...
En 23, si je ne dis pas n'importe quoi. Non,
peut-être 23.
Mais c'est déjà avec l'enterrement en fait, de la promesse britannique d'un État palestinien, que les premières révoltes vont arriver. Parce qu'il y a vraiment la réalisation que ce qui a été promis avec le soulèvement, parce qu'il y a eu un soulèvement palestinien contre les Ottomans, qui n'est pas la seule pierre qui a fait chuter l'Empire ottoman, mais en tout cas qui a joué de sa déstabilisation, ce qui a été promis ne viendra pas. Et il y a la vraie réalisation que, en plus de la promesse qui n'est pas tenue, il y a une colonisation qui est en train de se faire, en tout cas un accaparement des territoires, qui va... Enfin, il y a la vraie vision que l'État palestinien tel qu'il a été proposé par l'Angleterre n'aboutira jamais, et donc de là vient des attaques contre les communautés qui représentent en fait le pouvoir colonial britannique.
Oui, et aussi il faut rappeler que l'impérialisme, disait Lénine, est le stade suprême du capitalisme, et que donc du coup beaucoup voient dans la situation coloniale un lieu de débouché pour les capitaux excédentaires, et qu'avec la crise économique, notamment à partir de 29, il y a énormément de gens qui vont de capitalistes qui vont saisir la potentialité de la Palestine comme un endroit d'investissement énorme pour moderniser le processus de production, etc. Et évidemment, avec les liens des sionistes avec les pays impérialistes occidentaux, c'est évidemment ils vont moderniser le processus de production, mais dans les appareils de production, sionistes, quoi. Ce qui va en fait prolétariser énormément, parce que sur une même terre, dans un même espace, on va commencer à produire de manière très différenciée, parce qu'il va y avoir un apport en capital dans les colonies de production sioniste énorme, alors que en effet, les modes de production beaucoup plus traditionnelle prévalait chez les populations arabes. Donc ça va exacerber des tensions en fait matérielles extrêmement importantes. Et cette colonisation sioniste, avant d'être parachevée par la Nakba et l'autoproclamation de l'État d'Israël, ouais, elle a commencé par une dépossession matérielle immense, en fait, liée en fait à l'apport du mode de production capitaliste par l'arrivée des sionistes, qui d'ailleurs a donné à l'État d'Israël sa forme actuelle, c'est-à-dire une espèce d'antenne américaine le long de la Méditerranée.
Et du coup, je voudrais juste revenir sur la fin de la Seconde Guerre mondiale et du coup, la création de l'État d'Israël et la Nakba, du coup. Parce que tu as parlé de Nakba, mais qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est une guerre en 48 qui est une guerre contre les Palestiniens pour qu'ils partent de leur terre. La Nakba, c'est 800 000 Palestiniens qui quittent leur maison en espérant revenir. Hein. Ils ont gardé la clé de leur maison, ce qui devient un symbole un peu de résistance et de volonté du retour. Et ces 531 villages détruits, 11 villes vidées de leurs habitants et des centaines de milliers d'hectares confisqués. Du coup, il y a la résolution de l'ONU qui adopte un droit au retour qui ne sera jamais effectif. Et il y a la volonté, du coup, l'ONU avait décrété en fait trois États, un État juif, un État arabe et un Jérusalem sous contrôle international. Voilà, donc c'est le début un peu de, je sais pas comment dire, mais de la catastrophe. Hein. Donc à chaque fois, Israël fait en sorte qu'il y ait des guerres, surtout. Elle récupère un maximum de territoire et crée des conditions en fait pour que les personnes fuient ou meurent et s'accaparer un peu plus en plus des territoires palestiniens. On le voit assez souvent sur les cartes qui sont affichées un peu partout dans les manifs et autres où on voit comment les territoires palestiniens sont grignotés peu à peu.
Mais même pour revenir un petit peu, en fait, on voit que la politique israélienne et avant ça la politique britannique est une politique coloniale, justement de toujours jouer sur les excès pour ne pas permettre une certaine paix. La volonté de, pour coloniser, ne pas laisser une unité des peuples, ou en tout cas une solidarité des peuples. Et ensuite, dans le sens, ça va toujours continuer parce que tout ce qui va être proposé aux Palestiniens va toujours en fait être des propositions qui sont nulles et non avenues parce qu'elles ne peuvent pas être acceptées en l'État. Soit parce qu'elles renient totalement les droits des Palestiniens, soit même parce qu'elles ne leur accordent pas certains accès qui étaient demandés et qui, en fait, au moment où elle est proposée, mais paraît fou.
Donc tu parles au début, par exemple, on leur propose de reconnaître ce partage. Exactement. En fait, et qu'ils vont refuser, de dire bah, attendez.
Ils vont même pas refuser, c'est-à-dire on va même pas leur demander la parole. En fait, le sionisme est un colonialisme et comme tout colonialisme, il repose avant toute chose sur une imposture, sur le vol d'une terre, le fait du coup d'en chasser les populations qui y vivaient, d'en abolir ou d'en dénaturer les cultures, les modes de vie, etc. Et puis après, sur un mensonge permanent, et d'en amener d'autres. C'est-à-dire de remplacer les populations, c'est un colonialisme particulier, sans doute le pire dans l'histoire, qui est un colonialisme de peuplement, en fait, qui suppose le remplacement d'une population par une autre. Et donc, en effet, le sionisme va en permanence dans une idéologie de séparation, et essayer de trouver tous les stratagèmes possibles pour avoir un maximum de terres et un minimum d'arabes pour réaliser cette idée d'un État juif, d'un État à majorité ethnique juive, sur une terre qui ne l'est pas.
Clairement, et tu voulais aussi à un moment parler peut-être de l'idéologie et du mot, du coup, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, c'est un truc qui revient souvent.
Ouais, c'est attribué à Chaim Weizmann, je crois, qui est un homme politique israélien important des débuts de l'État d'Israël. Oui, voilà, c'est vraiment cette idée purement coloniale de la terra nullius, quoi, de la terra soit vide, soit gâchée, en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup chez les sionistes cette idée qu'avant eux, il y avait des cailloux, qu'ils ont apporté la prospérité, les roues, ils ont tout apporté. Cette idée, en fait, d'un vide à combler. Et en fait, qui s'appuie sur la négation totale des modes de vie préexistants et sur leur destruction, en fait.
Mais on peut faire beaucoup de parallèles avec les autres colonialismes, qui est bah, juste enfin, des petites anecdotes là-dessus. La Palestine, dans les années 20, va être le lieu qui sera le plus photographié, et justement pour jouer ce récit que cette terre est vide, que cette terre est un désert, et donc pour revenir avec un peuple sans terre, pour une terre sans peuple, qui techniquement paraît totalement légitime et qui va donc être soutenu en fait par entre guillemets les États qui ont le pouvoir, donc les États coloniaux. Mais il va ensuite y avoir de la même manière un jeu sur les représentations pour montrer que les populations locales et autochtones sont barbares, soit qu'elles n'ont rien apporté. Juste pour faire un parfait analogie, en Kanaky, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les images nous montrent des émeutiers qui ne savent pas quoi faire d'autre que d'être haineux et barbares, et de l'autre côté, des colons qui, eux, ont tout amené, sont producteurs de tout, et qui veulent simplement la paix, mais qui, en fait, tirent dans le tas et qui ont assassiné plusieurs Kanaks sur place. Et c'est exactement cette même position. Donc, le juif israélien, est en position de défense, parce que, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui vivait dans le sable et qui, quand on lui a apporté la modernité, n'en voulait pas ou trouvait que c'était pas assez, s'est retrouvé dans l'opulence, mais s'est dit « mais j'en veux plus, toi, tu m'as » et ne lui remet que dans cette place, alors que, excusez-moi, enfin, la population palestinienne d'antan était très productrice. Il y a une représentation assez forte, je pense, avec... Moi, c'est parce que je connais ça, notamment avec le film de Yael Sivan sur les oranges de Jaffa, qui montre tout l'accaparement de la production palestinienne des oranges et des orangers de Jaffa, qui vont devenir non pas le symbole passé de la Palestine, mais le symbole israélien de son travail, et qui d'ailleurs, en plus, après, parce qu'elle a rasé la terre, va l'enlever. En gros, il va s'accaparer les représentations même symboliques des populations qu'elle a colonisées, pour ensuite, parce qu'elle peut en disposer, va les abandonner. Enfin, c'est vraiment un travail de colonisation, pas seulement des terres, mais des représentations aussi.
Ah ouais. Des idéologies, des images qui s'approprient, quoi.
Et pour revenir sur la Nakba et sur, en effet, le vote de l'ONU et de la partition, il faut savoir qu'il y avait, je pense, à peu près entre la Méditerranée et le Jourdain, une population juive qui équivalait à 30% de la population totale, parce que ça faisait quand même déjà 50 ans que des immigrants juifs arrivaient, des colons sionistes arrivaient. Et cette partition proposait à ces 30% de juifs, je crois, quelque chose comme 56% de la terre. Ensuite, il faut savoir que l'Organisation des Nations Unies n'a pas vocation à créer des États. Elle peut lancer une procédure qui est soumise à référendum des populations. Sauf que, évidemment que 70% de la population palestinienne qui a 44% de son territoire historique en fait et qui n'a rien demandé, évidemment qu'elle allait refuser le référendum. Donc l'État d'Israël s'est autoproclamé. Les États d'Égypte et de Jordanie sont intervenus militairement, ont perdu. Les populations israéliennes ont été chassées dans le feu des combats par les milices sionistes et en fait n'ont jamais pu revenir. Et de toute cette espèce d'amas de fumée et de sang est né l'État d'Israël, est née la situation spécifique à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem, et basée en fait sur une situation d'apartheid progressif qui va s'installer dans ces différentes zones issues de ce drame, issues de cette Nakba qui n'a jamais été reconnue en fait par l'État d'Israël, qui ne reconnaît pas le droit au retour, pour le coup, sanctionné par l'ONU, des réfugiés palestiniens de cette catastrophe, parce que reconnaître ce droit, il faut vraiment insister quand on est militant pro-palestinien, ça implique de modifier profondément Israël dans sa nature, alors pas... Dans les axiomes médiatiques débiles, la destruction de l'État d'Israël, mais sa désionisation, c'est-à-dire le démantèlement de son caractère colonial et de sa structure d'apartheid pour l'égalité des droits des populations entre la Méditerranée et le Jourdain.
Et encore une fois, la légitimité qu'elle se crée, qu'elle se forge, elle est toujours dans un écho, en gros, aux États-nations coloniaux, de dire que c'est la démocratie qui nous a fait naître, c'est l'ONU, donc les États démocrates qui se sont régis entre eux et qui démocratiquement ont accordé aux Juifs. Mais pour revenir pour la Kanaky, c'est la même manière qu'on fait un vote fantasque et de s'appuyer dessus en disant la démocratie, c'est elle qui a le dernier mot, donc maintenant on joue avec ça et toutes les revendications, elles doivent se taire parce que la population a parlé.
Ouais, et aussi pour revenir sur cet argument de l'Organisation des Nations Unies, on est en 47 quand le vote est fait à l'ONU. C'est la première décolonisation importante, c'est 48, c'est l'Inde. Donc en fait, si tous les pays, par exemple, du tiers-monde, si en fait l'Organisation des Nations Unies avait été vraiment démocratique, avait intégré tous les peuples après les décolonisations, je pense vraiment que le résultat de la partition aurait été sensiblement différent. Et ensuite, je voulais ajouter une chose. C'est que précisément, l'État d'Israël s'est fondé sur cette injustice fondamentale qu'il n'a jamais voulu reconnaître. Et du coup, il n'a pas de frontières fixes, il ne les a jamais déclarées à l'ONU. Et il est pris dans cette fuite en avant permanente, parce que s'il veut pas faire la justice, s'il ne veut pas créer les conditions de l'égalité des droits, il est poussé dans une espèce de fuite en avant permanente, d'éradication des populations. Et là, on en est vraiment au paroxysme avec ce qui se passe à Gaza, qui est un génocide, et qui participe d'un long nettoyage ethnique qui a débuté depuis au moins 48, depuis au moins la Nakba, peut-être même avant, tu vois. Et en fait, ces guerres permanentes et ce caractère impérialiste, militaire, expansionniste de l'État d'Israël, il est lié à cette fuite en avant qui fait qu'il est obligé de repousser toujours plus loin ces conditions de répression et d'exploitation pour mieux ne pas reconnaître le crime par lequel il est né.
Nous allons maintenant écouter un extrait du podcast Minuit dans le siècle avec le témoignage de Pierre Stamboul de l'UJFP, l'Union juive pour la paix. Il nous parle de l'État d'Israël après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah.
Qu'ils essaient de gommer le fait que dès le départ, le sionisme qui a fondé l'État d'Israël était un colonialisme de remplacement qui, à la différence des colonialismes français ou britanniques en Afrique, ne visait pas à exploiter l'indigène, mais à l'expulser, à le remplacer, que ces gens-là invoquent notre douleur, je veux dire, les 6 millions de morts, la quasi-totalité ne savait rien du sionisme. Et puis on va aller plus loin. L'Europe s'est débarrassée de son crime, qui a été l'antisémitisme européen et le génocide nazi sur le dos des Palestiniens. Si les Juifs avaient eu la possibilité, avant la guerre d'extermination et après, d'émigrer en Europe ou aux États-Unis, il n'y aurait jamais eu d'État d'Israël. La destination évidente des Juifs, c'était les États-Unis ou l'Argentine. J'ai un exemple même dans ma propre famille. La seule branche de ma famille qui était en France, les autres ont été exterminés en Europe orientale. C'était... Un cousin de mon père, lui, il est mort à Auschwitz, il a été raflé au moment de la rafle du Veldiv. Sa femme et sa fille se sont cachés en Dordogne. Et à la libération, la femme reprend son métier de docteur. Comme l'avortement était toujours interdit en France, elle pratique un avortement clandestin et la femme meurt. Elle est jugée et le juge lui a dit « c'est 10 ans, sauf si vous partez en Israël, je vous laisse partir ». Elle est partie comme ça. C'est-à-dire que c'est à travers ma propre famille, je décris comment... L'Europe s'est débarrassée de ses Juifs. Daniel Mermet racontait dans une émission ancienne, il y a eu, après 1945, une dizaine de camps en Europe, en Bavière, en Autriche, en Tchécoslovaquie, de rescapés du Yiddishland et des camps d'extermination. Et ils demandaient tous des visas pour la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Danemark. Ils n'avaient pas. Shlomo Sand est né dans un de ces camps à Linz, en Autriche. Et en 1953, il reste un camp. Tous les autres sont déjà partis en Palestine. Ça fait déjà 8 ans qu'ils sont dedans. Ils se révoltent. Et donc, on est en 1953 en Bavière. La police bavaroise charge un camp de réfugiés juifs et les expulse tous en Israël. C'est-à-dire qu'on a sur cet petit événement la façon dont l'Europe a réglé le problème. Maintenant, vous avez un pays, vous partez quand vous voulez. Et ça n'a strictement rien à voir... Avec si on avait dit aux Juifs, écoutez, on a déconné 6 millions de morts, maintenant vous aurez l'égalité des droits. Non, on leur a dit, maintenant vous avez un pays, vous partez quand vous voulez. Et notamment, vis-à-vis des Juifs d'Europe de l'Est, où ce qu'avait été le Yiddishland avait disparu, il n'y avait plus de traces, avait les anciens shtetl, les bourgades juives, les anciens ghettos, tout ça s'était rasé. Et même les Juifs qui ont voulu rentrer en Pologne à Kielce se sont fait massacrer en 1946. Mais donc, il aurait été logique que l'Europe répare sa dette vis-à-vis des Juifs. La dette, c'est les Palestiniens qui ont été chargés de la réparer. Là, il y a un crime ignoble.
Sagnit kein mal als du gehst dem letzten Weg. Himmeln bleiene verstellen blaue Tag. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schor. Sveta peugt an unser Trott, mir sinnen do. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schor. Sveta peugt an unser Trott, mir sinnen do. Von grünem Palmenland bis Land von weißem Schnee. Wir kommen an mit unser Pein, mit unser Weh. Ohne wo gefallen's, ist ein Spritz von unser Blut. Sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Ohne wo gefallen's, ist ein Spritz von unser Blut. Sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Svet die Morgensonn begilden uns dem Heid. Und der Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Nur ein Versammen wird die Sonne und der Kajor. Wie ein Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. Nur ein Versammen wird die Sonne und der Kajor. Wie ein Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor.
Je voulais juste essayer d'un petit peu avancer et passer sur en fait aussi d'autres accords qui sont pas acceptables, hein. Des accords d'Oslo par exemple, où c'est très compliqué parce que du coup l'État d'Israël, avec l'appui des États-Unis, a quand même mis très fortement en tension ce qui a été créé comme l'autorité palestinienne, donc le gouvernement palestinien. Mais c'est l'État d'Israël qui décide de tout en fait, et donc l'autorité palestinienne, elle est obligée de coopérer. Et c'est l'État d'Israël qui décide qui peut travailler, qui peut pas travailler, de la main-d'œuvre, de l'espace, du temps, enfin des checkpoints. Il y a toujours un chantage au travail, un chantage pour aller au travail, un chantage pour aller à l'hôpital. Enfin, c'est différents checkpoints du coup qui sont mis à des endroits que Israël considère stratégiques, qui fait que l'économie israélienne, elle est boostée par l'exploitation des Palestiniens et par le contrôle entre guillemets indirect sur l'économie palestinienne.
Mais parce que la colonisation ne peut jouer que par apartheid. En tout cas, ne peut garder une paix qui n'est pas juste.
Par apartheid, est-ce que tu peux définir?
Voilà, non, t'arrêtes. Mais juste pour dire, c'est vraiment la seule paix possible, ouais. En colonie. Elle ne peut pas être juste. Elle ne peut pas garantir l'égalité entre toutes les populations parce qu'elle doit servir un peuple. Sinon, justement, un jour ou l'autre, la démocratie la vira de là. Mais donc l'apartheid, c'est bien de montrer que sur cette terre, l'appartenance ethnique ou religieuse ne définit pas, enfin justement, l'appartenance ethnique ou religieuse définit les lois qu'on peut appliquer. Notamment, c'est simplement de dire que il y a des gens, enfin les Palestiniens n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens. Pour les Israéliens, et d'ailleurs ensuite il y a un apartheid à l'intérieur parce que l'apartheid se fait par gradation. Mais simplement un premier point, c'est que donc en Israël ou pour les Israéliens, on a un état de droit. On peut voter, on ne peut pas être arrêté sans aucune fondement, sans une légitimité de la part de la police ou de l'armée, alors que pour les Palestiniens, on est dans une loi martiale. On peut être arrêté à n'importe quel moment, sans aucun motif, on peut être détenu dès l'âge de 12 ans, simplement pour le rappeler, d'ailleurs simplement pour des suspicions ou non, mais on a déjà une différence simplement dans les lois. Donc là,
dire qu'on arrête les gens et en fait, on n'a aucune besoin de légitimité le fait qu'on les arrête, quoi.
Bien sûr,
les avocats n'ont aucune information sur pourquoi la personne est arrêtée, non. Et qu'il arrive des fois qu'on arrête des gens juste pour faire peur à la famille, aux voisins, à la communauté, quoi.
Oui, pour mettre de la pression à ceux qui ont envie de sortir de cet état d'apartheid. Mais dans le sens, on n'est même pas dans les situations où on appelle de racisme systémique, où il y aurait un racisme dans la société. Là, on est dans un racisme systématique.
Et institutionnel.
Voilà, institutionnel. C'est la légitimité et le droit qui autorise l'armée à rentrer dans des maisons sans aucune... on appelle ça comment ? Sans aucun mandat, sans aucun mandat d'arrêt pour arrêter qui ils veulent. Enfin, et ça, c'est le premier niveau. Parce que même dans la société israélienne qui... elle se dit démocratique et juste, il y a tout un autre niveau donc d'apartheid. On a parlé tout à l'heure là, de l'armée. Le premier lien social en Israël, c'est l'armée. Où dans les premiers questionnements de sociabilité, on demande où est-ce que tu as été pour savoir à quel ami, enfin dans le sens, dans quel groupe social tu as vécu. Et c'est là-dedans souvent qu'on crée donc les premières relations sociales, les amitiés et même les relations professionnelles par la suite, c'est par l'armée. Et il y a toute une population qui est ostracisée dans cette propre armée. C'est d'ailleurs un jeu rhétorique assez amusant. C'est que en Israël, donc, le service militaire est obligatoire, sauf justement pour certaines minorités ethniques et religieuses. Ce qu'on appelle les Arabes israéliens, donc les Palestiniens qui ont la nationalité israélienne, ne sont pas obligés d'y aller. Mais en fait, ils sont, enfin, par cette non-obligation...
La nationalité israélienne, parce que du coup, c'est les frontières après la guerre de 48 qui fait qu'il les a incorporés...
Qu'il les a assimilés, qu'il leur a donné une certaine citoyenneté, mais une citoyenneté qui n'est pas totale, ouais. Qui n'est pas pleine. Parce que justement, ils n'ont pas accès, eux, à cette sociabilité, à rentrer dans le corps social. Et s'ils tentent de le faire, ils sont ostracisés dans ces mêmes régiments, dans ces mêmes casernes militaires, parce qu'ils sont en ultra-minorité.
C'est ça, oui, l'apartheid, c'est en effet cette espèce de séparation, en fait, de populations qui ne bénéficient pas des mêmes droits et qui sont... alors du coup, quand on est juif entre la Méditerranée et le Jourdain, on bénéficie de la plénitude de ses droits. Quand on est palestinien, à des degrés divers, on n'en bénéficie pas. On est soit ghettoisé dans une prison à ciel ouvert à Gaza, on est sous la loi martiale de l'occupant israélien en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et aussi sous l'oppression des raids de colons. Et sans doute le degré le moins, en tout cas physiquement terrible, c'est le degré d'oppression des Palestiniens de 48, donc des Arabes israéliens, qui en effet sont des citoyens israéliens mais de seconde zone, qui subissent une multitude de discriminations, et surtout qui doivent s'abandonner comme Palestiniens. Ils sont des Arabes israéliens.
Mais du coup, en fait, ça revient un peu à un truc miroir par rapport à ce qu'on parlait au début qu'est-ce que subissaient en fait les communautés juives, notamment dans la zone de résidence. Et du coup, c'est tous les trucs qui sont un peu en miroir, parce que moi je trouve assez fou, c'est du coup, quand on parlait de la loi martiale, la loi militaire, etc., qui est hyper importante, et notamment aussi sur la confiscation des terres. Les terres cultivables que l'État russe retirait aux personnes juives, il y a pareil des terres qui sont retirées aux Palestiniens. On parlait aussi à un moment, il y avait le grand rabbin à sa fête qui dit que la Torah interdit de louer des maisons aux étudiants arabes. C'est un peu comme sous l'Empire russe, les juifs qui ne pouvaient pas posséder ni louer un bien foncier. Il y a la confiscation de l'eau, etc. Enfin, mais il y a tellement de parallèles qui sont assez horribles.
La proposition, je pense qu'à Tzedek, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on est décolonial ? C'est parce que le colonialisme ne se fait pas seulement à l'étranger, il se fait aussi sur ses propres terres avec certaines populations, comme l'ont été en fait les Juifs en Europe centrale et en Europe de l'Est, donc où leurs corps ont été utilisés à certains fins et où surtout la finalité, c'est vraiment qu'ils ne sont pas chez eux. En tout cas, c'est ce que veut le colonialisme. Eh bien, c'est la même chose que produit l'État d'Israël. Et d'ailleurs, comme disait Nathan, c'est la finalité, elle est aujourd'hui. Elle est de montrer que le projet colonial ne perçoit pas les Palestiniens, ou même d'ailleurs les Arabes israéliens, chez eux. Et qu'un jour ou l'autre, elle va donc finir soit par les expulser, soit par les exterminer tous. Et c'est ce qu'a fait en fait l'Europe, parce que la finalité du projet nazi est un projet colonial de ses propres terres, qui a d'ailleurs d'abord été expérimenté, si je parle pas n'importe quoi, en Namibie.
Exactement.
Par le pouvoir néerlandais.
Non, par le pouvoir allemand.
Allemand, ok. Ouais. Donc par le pouvoir allemand, et qui ensuite a vu que ses terres n'étaient pas homogènes non plus, donc qu'il a voulu finir de coloniser ses propres terres. Et c'est ce que fait Israël aujourd'hui. Ouais. C'est que le projet colonial, dans sa finalité, il est de la non-acceptation de ceux qui ne permettent pas à l'État d'être homogène. Et en fait, c'est ce qu'a été pendant toujours la proposition juive, c'est de ne pas s'accepter au sein de l'État dans sa totalité, de ne pas avoir son identité réduite à l'État-nation. Et de justement toujours proposer quelque chose d'autre, de toujours être un petit peu sinueux, de ne jamais permettre à l'État d'avoir un contrôle total sur sa personne, sur son sujet, et donc d'apporter quelque chose toujours en plus. Et en gros, c'est la finalité aujourd'hui qu'on voit avec le génocide à Gaza. Je deviens un petit peu émotionnel dans ma voix, là, excusez-moi. Mais et c'est ce que beaucoup, d'ailleurs, je pense, de juifs français ont remarqué. D'ailleurs, moi, personnellement, c'est ça ce qui m'a frappé le 7 octobre et ce qui m'a poussé, en fait, à devenir militant et à rentrer chez Tzedek. C'est que la proposition sioniste, même de gauche, la plus radicalement non raciste, dans sa finalité, elle est l'effacement total de la population palestinienne.
Et oui, voilà, si on est un collectif décolonial et que notre antiracisme est décolonial, c'est parce que précisément on voit dans le racisme d'État, notamment en France, parce qu'on vit en France, le revers ou comme l'écho ou le reflet du racisme de la colonisation. Parce que État-nation, race et colonialisme marchent toujours l'un avec l'autre, en fait. Et ce qu'il y a, c'est que, par exemple, de fait, comme Adam le disait très bien, les populations, les discriminations et les injonctions à une assimilation, en fait, qui n'existe pas et qui se pense à partir d'une population majoritaire essentialisée, extrêmement raciste, en fait, ces injonctions que subissent, par exemple, les populations issues de l'immigration postcoloniale, elles sont directement issues de la colonialité du pouvoir, de la façon dont les États modernes occidentaux colonisateurs se sont construits comme appareil de pouvoir. Et donc on ne peut pas déconnecter les luttes antiracistes dans tous les pays, des luttes anticolonialistes, par exemple en Palestine, par exemple en Kanaky. Et sinon, oui, je voulais juste revenir sur... tu as évoqué les accords d'Oslo, qui en effet ont ouvert dans les années 90 un discours, le discours du processus de paix, le discours des deux États, qui est un discours en fait dans lequel toute la classe politique marche encore. C'est un discours qui sert à le statu quo. Et le problème, c'est que le statu quo, il n'est pas fixe. Le statu quo, c'est la progression du colonialisme israélien, l'élimination progressive, la dissolution de la société palestinienne. Et donc, en fait, c'est insupportable de voir à quel point ces accords d'Oslo, ils n'ont rien donné. Ils ont donné lieu à... Déjà, ils ont été interrompus par deux assassinats, celui de Yitzhak Rabin d'abord, d'Arafat ensuite. Ensuite, ils n'ont pas du tout abouti, ils ont été bloqués dans leur processus. L'autorité palestinienne, comme tu le dis, elle est devenue une officine sécuritaire de l'État israélien. Et en fait, on se rend compte tout simplement que ça ne marche pas, parce que cette terre ne se partage pas. Parce que plutôt qu'une partition, il faut prôner un partage, c'est-à-dire une coexistence, une vie commune, une dissolution des institutions d'apartheid, des institutions de la domination raciale et du suprémacisme juif. Parce que, par exemple, les ressources en eau, elles sont pas séparables, les nappes sont les mêmes. Les éléments symboliques extrêmement importants, le mur des lamentations, Al-Aqsa, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait avec Jérusalem? L'importance maintenant, pour deux populations de cultures différentes, la société juive israélienne et la société arabe palestinienne, l'importance maintenant que cette terre constitue, je veux dire, tout le monde sait à quel point il va falloir trouver les modalités d'une existence commune qui ne peut se faire que par la justice et que par l'égalité, c'est-à-dire sans le sionisme. Et qui passe par le partage, c'est-à-dire des institutions de coexistence, et pas la séparation, et pas un État fantoche sans moyens vis-à-vis de l'hydre impérialiste sioniste israélienne qu'on connaît, qui en fait de toute façon l'opprimera, et il lui mènera une guerre de frontières. En fait, les deux États, on y est déjà. C'est la Cisjordanie disloquée, c'est la loi martiale pour les Palestiniens. La seule solution, c'est un État commun dans l'égalité des droits, la fin de l'apartheid et la reconnaissance du droit au retour des réfugiés palestiniens, ce qui est vraiment la clé de voûte qui fera exploser le système séparatiste, colonial, suprémaciste israélien.
Et c'est ça qui montre qu'on ne peut pas négocier en fait avec le sionisme. Et que même justement les accords qui, entre guillemets, les plus paisibles ou les plus presque fraternels mèneront toujours à des conflictualités. Et je crois que c'est Hannah Arendt qui a dit que le projet sioniste d'Israël tel qu'il est ne pourra jamais avoir plus de 10 ans en paix, si je dis pas n'importe quoi.
Et promet aux Israéliens une guerre tous les 10 ans.
Mais c'est exactement ça, c'est que tout processus de paix, une proposition de paix ou partage, finira en guerre. Et c'est en ça que nous, on se propose comme anti-sionistes, qu'on ne peut pas même juste être a-sioniste, où en fait c'est irréalisable matériellement, parce que le projet colonial sioniste finira toujours par essayer de redéfinir, par reprendre, ou par même homogéné, ou même dans ses propres territoires, continuera cette homogénéisation et cette apartheid coloniale. Donc on doit être... Enfin, voilà. Ouais. Si on veut la justice pour les peuples, il faut être antisioniste.
Ouais, on est antisioniste pour deux choses, je dirais. C'est dès qu'on est antisioniste parce qu'on est anticolonialiste et pro-palestinien, et parce qu'on veut la justice et qu'on sait reconnaître un peuple opprimé quand on en voit un, et qu'on ne détourne pas le regard. Mais on est aussi antisioniste parce qu'on est juif, parce que l'État d'Israël commet ce crime colonial et l'exacerbe en ce moment au nom des juifs, au nom de la sécurité de tous les juifs du monde. Adam et moi, cet État nous embarque dans ces crimes parce que si on veut, on peut avoir la citoyenneté, on peut entrer dans une maison dont on a chassé un autochtone de Palestine, en fait. Donc qu'on le veuille ou non, il y a un idéalisme comme ça chez des juifs de gauche qui veulent fuir en fait le sionisme. En fait, c'est une structure coloniale qui a embarqué toute l'histoire juive avec elle et qui l'amène, comme Adam l'a très bien dit, à sa perte. Et nous, on veut tirer le frein d'urgence de l'histoire, comme disait notre camarade juif Walter Benjamin, et on veut y mettre fin. Et donc en fait, notre salut et la continuité de cette tradition et de cette transmission juive, elle passe par notre intervention dans le réel, afin de mettre fin au crime du sionisme, qui embarque toute l'histoire juive vers sa perte, et si pas vers sa perte, vers sa dégénération totale.
Et un dernier mot pour dire qu'en fait, on n'a pas le choix. Parce que soit on accepte justement de rentrer dans la bataille, de combattre le sionisme, soit on finit comme Shlomo Sand, parce que de toute manière, le sionisme gagnera, et on ne sera plus juif, parce qu'il aura emporté le judaïsme dans le colonialisme parfait. Être juif deviendra une citoyenneté qui sera en plus représentative d'une violence, d'un génocide qui est sous nos yeux, et dont ce peuple, cette État-nation devra un jour ouvrir les yeux, qui j'espère d'ailleurs va le faire et l'arrêter le plus immensément possible, enfin aujourd'hui. Mais c'est simplement de dire que un des adages, ou en tout cas une des maximes qu'on trouve dans le traité des pères, c'est de dire que le questionnement sur le judaïsme est un fardeau dont on n'a pas le choix de s'immiscer et qu'on ne peut apporter de réponse finale. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Si on veut être juif, si on veut continuer à l'être et si on veut continuer à faire vivre cette transmission de la promesse, on n'a pas le choix d'être antisioniste. Voilà.
Carrément. Et du coup, là, au moment où on enregistre l'émission... Il y a eu un génocide depuis 8 mois, on est à 38 000 morts, au moins, et il y a des bombardements en ce moment à Rafah, au sud de Gaza, dans des camps de réfugiés. Quoi. Carrément, du coup, comment vous voyez la lutte comment on s'engage, comment les gens font c'est bien, mais est-ce qu'ils peuvent rejoindre Tzedek, par exemple? Comment vous fonctionnez-vous?
Si ces personnes sont prêtes à s'affirmer comme juive et à lutter politiquement en vertu de cette affirmation et de cette appartenance, elles sont évidemment les bienvenues à Tzedek. Peu importe les motifs de cette appartenance et de cette subjectivation juive de soi. Et puis sinon, en fait...
Peu importe comment tu te sens juif, à partir du moment où tu te sens légitime à porter la parole juive.
Et à contribuer à...
Tu es bienvenue à Tzedek.
Et la manière de lutter, c'est en désionisant le judaïsme et donc en proposant un judaïsme qui d'ailleurs n'est pas nouveau, mais une identité juive en dehors du sionisme, en recréant en fait ces espaces de diaspora et de vie juive en dehors de cette proposition coloniale, pour qu'un jour, en gros, cesse cette sionisation du judaïsme et cette proposition de la défense d'un peuple opprimé qui en fait est un peuple vaincu. Depuis 1948, le peuple juif est déguisé en vainqueur, je reprends une formulation de Simon Assoun, le sionisme a déguisé les juifs vaincus en vainqueurs, mais en gros c'est en proposant quelque chose de différent, de diasporique, d'une proposition d'une identité révolutionnaire pour que au moins cesse la justification de l'État colonial d'être protecteur de notre peuple. Et ensuite aussi, à côté de ça, parce qu'il n'y a pas que les juifs qui militent, et il n'y a pas que nous, on est des alliés, en fait, de la cause palestinienne, l'autre moyen, c'est simplement, déjà, ce soir, bon, peut-être que je pense que quand on sera sur la radio, ça sera passé, mais de venir aux manifestations, de mettre un poids, et de rééquilibrer la balance des pouvoirs, de partout où on est, de bloquer le plus possible, médiatiser cette lutte, de montrer que le peuple palestinien a le droit à simplement sa vie, de le faire vivre partout où on est. Oui, je pense que c'est ça.
Oui, exactement. Et je pense que ce qu'on a, l'expérience de Tzedek, elle nous a montré que politiquement, on advient à l'efficacité politique, à la puissance politique, à l'agir politique que collectivement, en fait. Tout seul, on est pris comme un atome dans un désarroi permanent. Nous, le 7 octobre, il nous a frappé de plein fouet. Il nous a frappé dans notre appartenance juive, parce qu'en fait, tous les discours d'instrumentalisation opérés par l'État, que ce soit l'État français, que ce soit l'État d'Israël, afin de faire taire, en fait, toute la contestation juste qui s'était levée en défense des Palestiniens. Elle nous a fait énormément de mal. Et en fait, le fait de nous retrouver, de discuter, de nous politiser, de nous former ensemble, d'avoir cette promesse aussi de refaire vivre une vie juive désionisée, loin de la propagande coloniale, en fait, ça nous a donné une force pas possible. Ça nous a rendu en fait à une partie de nous-mêmes. Et c'est ça, c'est aussi pour ça que ce militantisme est vraiment extrêmement prometteur, en fait, même en tant pour nous en tant que personnes. Donc pour les personnes qui entendent rejoindre Tzedek, elles sont les bienvenues, puisque plus on sera nombreux et nombreuses, et plus on aura du poids. Et sinon, il faut rejoindre en effet tous les collectifs qui nous ont beaucoup aidés, nous aussi. Je pense notamment à l'Urgence Palestine, auquel il faut toujours rendre hommage, parce que c'est des collectifs qui nous ont directement ouvert les bras, et avec la solidarité qu'ils nous ont donnée, on a pu se constituer très vite, avoir accès à une visibilité, une parole, et c'était très chouette. Et bon, les conditions sont délétères en ce moment et les images sont atroces, mais il y a de la lutte. Et tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir.
Et on a l'espoir et on sait qu'on est là pour changer le monde.
Carrément. Et donc, du coup, n'hésitez pas à rejoindre les collectifs. Tzedek, ça s'écrit T-S-E-D-E-K.
Avec un point d'exclamation.
Et je pense que vous pouvez trouver ou vous envoyez peut-être un mail sur Internet.
On a un site Internet sur lequel on peut retrouver toutes ces informations. Donc, c'est tzedek.fr. Et sinon, on est sur tous les réseaux sociaux sur lesquels on peut nous contacter. Et si on veut adhérer, il faut simplement envoyer un email et participer à un petit un groupe de parole sur lequel on parle de nous.
Et du coup, j'ai l'impression que si les auditeurs veulent un peu agir, il y a, comme tu disais, sortir un peu de l'isolement dans lequel nous met le capitalisme en nous atomisant les uns séparés des autres. Donc essayer de trouver des collectifs, c'est important. Il y a du coup aussi toute la lutte contre la colonisation qui peut être le boycott, comme Carrefour. Il y a BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions, qui fait pas mal de travail sur ça, auquel vous pouvez vous référencer sur Internet. Et ben, en parler en famille, avec des amis, et voir ce que les gens ont envie de faire, c'est aussi des fois les premières ressources. Je sais que c'est pas forcément évident et que le capitalisme nous a aussi du coup atomisés dans nos structures familiales, dans nos structures amicales.
Ouais.
Et du coup, des fois, on réaborder un sujet aussi important que la Palestine et que la décolonisation, c'est pas rien.
Il y a le collectif Stop Arming Israel aussi qui s'est constitué sur les enjeux d'armement. Ensuite, en fait, lutter. En fait, quand on lutte, on se rend compte que tous les enjeux sont interconnectés. Et donc, en fait, si on a une sensibilité particulièrement liée à l'écologie radicale, on peut aller au soulèvement de la terre. Parce qu'en fait, avec les soulèvements de la terre, on a construit une mobilisation à Marseille pour dénoncer une usine d'armement. Parce que l'industrie de l'armement, ou alors le colonialisme israélien en tant qu'il est prédateur sur les ressources en eau, tout ça peut évidemment se connecter. L'impérialisme est écocidaire, ou alors si on est issu d'une tradition de lutte plus ancienne, qu'on est plutôt dans les appareils syndicaux, en fait il y a un vrai travail à faire de décolonisation des appareils syndicaux, parce que les luttes sociales ne sont pas a priori antiracistes, comme elles ne sont pas a priori féministes, etc. Et en fait, partout où on est, il faut essayer de connecter les luttes entre elles, parce que malheureusement, les schèmes et les sources de l'oppression sont assez indivisibles, et le vrai travail des militants, c'est d'arriver à reconnecter toutes ces oppressions entre elles pour voir à quel point elles sont solidaires et pour pouvoir lutter le plus efficacement pour les détruire toutes en ne les séparant pas. Parce que chaque lutte, quand elle est prise séparément, devient potentiellement réactionnaire.
Carrément, du coup, c'est un peu... ça rejoint un peu la question, bah, pourquoi on fait ça en France ? La Palestine me paraît si loin. Et en fait, tout est interconnecté et la libération du peuple palestinien aidera à libérer pas mal... de genre d'oppression en France.
Et aussi parce qu'aujourd'hui, la lutte palestinienne propose quelque chose de nouveau, justement parce qu'elle s'attaque au colonialisme et à l'impérialisme, et peut devenir, je pense, un laboratoire pour ce mouvement d'émancipation des peuples, en gros par le sol, par le fondement, par les propres peuples eux-mêmes.
Ouais. Puis toute lutte entraîne les autres avec elle, et une victoire à un endroit X entraînera nécessairement une victoire, ou en tout cas une avancée à un endroit Y. Et c'est pas parce que les luttes sont distinctes qu'en fait elles ne se soutiennent pas l'une l'autre, et il faut impérativement casser justement cet argument sioniste qui veut que pourquoi vous vous intéressez qu'à la Palestine, bah, déjà parce que les événements nous y obligent, et vous, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on détende le regard, c'est plutôt cette question qu'il faudrait poser. Et ensuite vraiment toute victoire sociale, toute victoire du camp de l'émancipation est une promesse pour la suite. On a vu des révolutions surgir, par exemple, à Saint-Pétersbourg en 1917, qui ont transformé pour durablement l'avenir du monde. Nous n'étions pas Saint-Pétersbourgeois.
mais parce qu'on voit que l'impérialisme, lui, est solidaire entre lui, entre tous les États impériaux et coloniaux. Enfin, ont les meilleures amitiés. C'est fou.
Oui, le complexe militaro-industriel est qu'en fait, c'est extrêmement lié avec la sécurité intérieure. Toutes les armes de sécurité intérieure contre les manifestations, contre les revendications, elles sont présentées dans des salons militaro-industriels. Donc il y a bien des liens entre le très proche et l'un peu plus loin. On pense beaucoup aux Palestiniens et Palestiniennes qui doivent être en souffrance partout dans le monde et surtout en Palestine avec ce qui se passe. Continuons de lutter. Et puis pour dernier mot, Tahrir Palestine.
Tahrir Palestine.